On va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 22, au verset 15. Matthieu, chapitre 22, verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» On fait une petite pause. Le contexte est celui-ci. À l'époque où Jésus a parcouru la terre, a marché sur la terre, a parcouru Jérusalem, la Galilée, tout ce pays-là, il y avait l'Empire romain qui avait conquéri le pays, qui occupait le pays, et le peuple d'Israël, le peuple hébreu, le peuple juif, était sous la domination des Romains. Et ils attendaient une promesse qui leur avait été faite à un Messie, et ils croyaient que ce Messie allait vraiment renverser ce royaume qui était là sur eux, ces oppresseurs. Ils pensaient que ce Messie allait les délivrer, que ça allait être un chef de guerre comme David qui allait faire fuir tous les Romains, et ils allaient en être délivrés. Parallèlement, il y avait ces religieux qui étaient là et qui étaient jaloux de Jésus. Parce que les gens commençaient à comprendre que eux, ils n'enseignaient que des lois, que des religions qui étaient mortes. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu derrière, il n'y avait pas l'amour de Dieu. Il manquait quelque chose. Ils enseignaient des préceptes, mais eux-mêmes ne les observaient pas. Ils disaient des choses favorisant une tradition au mépris de la parole de Dieu et de la volonté divine. Ils oppressaient les gens, ils mettaient un poids sur les gens. Et quand Jésus est apparu, il a prêché un évangile de repentance, de conversion et de pardon. Il a prêché quelque chose de merveilleux. Il a dit que Dieu était amour, que Dieu était prêt à pardonner. Il s'est retrouvé devant des situations où on lui a demandé de trancher, par exemple, une femme adultère. Et la loi disait que cette femme méritait la mort par lapidation. Jésus dira, oui, que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et après, il va dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Il avait un message percutant, nouveau, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Ces hommes jugeaient beaucoup, mais ils ne pardonnaient pas. Ces hommes jugeaient, voulaient appliquer soi-disant la loi de Dieu, mais ils ne vivaient pas l'amour de Dieu. Et quand Jésus est arrivé, les gens ont compris qu'il y avait quelque chose en Jésus. Il y avait une onction, il y avait quelque chose de particulier, de spirituel. L'Esprit de Dieu agissait au travers de lui. Il faisait des miracles. Il guérissait des malades. Il parlait aux gens, ils étaient touchés au plus profond de leur cœur. Ils parlaient avec autorité. Ces gens remplis de jalousie ont cherché à piéger Jésus. Et comme ils comprenaient, ils entendaient que certains disaient que c'était le Messie, ils se sont dit, on va essayer de le piéger. On va lui poser, est-ce qu'il faut payer l'impôt, le tribut à César, l'impôt, la taxe, puisque ces oppresseurs oppressaient d'une manière aussi financière et prélevaient de l'argent. Et ils s'attendaient à ce que Jésus dise, non. Il ne faut plus payer César. Et ils auraient pu dénoncer Jésus et dire, voilà, vous voyez, il monte les gens contre vous. Jésus aurait été emmené. Et puis au moins, le souci aurait été ôté. Mais Jésus, avec sa grande sagesse, va répondre quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, donnez-moi une pièce, un denier. La monnaie de l'époque, une des monnaies de l'époque. Et ils amènent cette pièce, et alors qu'ils regardent la pièce, il dit, de qui est l'effigie et les inscriptions? On va le lire juste après. Hein, Jésus, connaissant leur méchanceté, verset 18, répondit, « Pourquoi me tentez-vous hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Ils lui présentèrent un denier, il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, mais n'oubliez pas la part de Dieu. Hein, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. D'autres évangiles nous racontent la même affaire en disant qu'ils n'osaient plus l'embêter. Ils se sont retirés. Ces personnes qui avaient posé la question ont laissé la place à d'autres parce qu'on n'a pas laissé Jésus tranquille pour autant. D'autres ont essayé à leur tour. Et Jésus, toujours avec tact, avec sagesse, a su toujours répondre. Et là, il va dire, mais de qui est cette effigie et ces inscriptions? De qui sont-elles? Eh bien, de César. Alors rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça a dû surprendre beaucoup de personnes dans ce moment, dans cet endroit, d'entendre ça de la bouche de Jésus. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et la première chose que je voudrais tirer de ce texte, on ira un peu plus loin après. La première chose, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à vouloir se rebeller contre l'autorité dans ce monde, sachant que l'autorité est injuste. C'est l'ennemi qui dirige le monde. Si on compare un petit peu avec notre vie aujourd'hui, c'est vrai que nous avons rencontré le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Et à l'époque de Jésus, il y avait des grands jeux. Un peu après Jésus même, il y avait des grands jeux. Les Romains faisaient des grands jeux. Et il faut savoir qu'il y avait, à l'introduction de ces jeux, un peu comme les Jeux olympiques, il y avait des cavaliers qui venaient et qui sonnaient de la trompette. Et juste après, il y avait César qui arrivait. Sur sa cuisse, il avait marqué « Roi des rois, seigneur des seigneurs » et pareil, sur une ceinture. Et tout le monde devait dire « Oui, César est Dieu ». Reconnaître que César était Dieu. Et il y avait comme cette oppression de l'ennemi qui était là. Et tout le monde devait dire ça. Et celui qui se rebellait contre César, il était tué. Et Dieu, dans sa sagesse, va dire à Jean de dire « Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est pas César. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. » Et je crois qu'il y a une parole qui parlait aux gens qui vivaient l'époque où Jean a écrit cet Apocalypse, mais il y a encore une portée prophétique pour nous. On va voir quelque chose d'extraordinaire. Quand le Seigneur Jésus va venir, il aura, je crois, sur lui marqué « Roi des rois, seigneur des seigneurs ». Il va y avoir une gloire étonnante, frappante, quand il va venir instaurer son règne. Mais en attendant, nous qui sommes chrétiens, le Seigneur ne nous dit pas de nous rebeller contre les autorités. Nous croyons qu'à force de manifestation, à force de rébellion, on va faire imposer la loi de Dieu ou la vérité, ce qu'on a compris de la parole de Dieu, de la pensée divine. Mais il est écrit que Jésus n'a jamais crié dans les rues. Jésus ne s'est jamais rebellé. Au contraire, dans la parole de Dieu, il nous est plutôt dit que toute autorité est voulue de Dieu et qu'il faut se soumettre, avoir du respect pour les autorités. Même dans 1 Timothée, il nous est dit qu'il faut prier pour ceux qui sont élevés en dignité, avant toute chose, pour que l'on puisse vivre en paix. Pour qu'on puisse prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Il faut avoir un respect, ne parle pas en mal de ton roi. Il y a toutes sortes de choses quand même qui sont là. Un jour viendra, croyez-moi, un jour viendra où quand Jésus va revenir avec nous, puisqu'avant il va nous enlever, quand il va revenir, là il va instaurer son règne sur toute la terre. Là il va mettre tout le monde d'accord. Et il va instaurer un règne de paix, de justice, un règne merveilleux. Vous croyez au millénium ? Qui croit au millénium ? Qui croit que le millénium va arriver ? Et que qui croit qu'il va vivre le millénium avec Jésus, du côté de Jésus ? Pas du côté du tombeau, mais du côté de Jésus. Parce qu'il aura été enlevé. C'est important. Moi, j'attends ces choses avec impatience. Hein ? Hier, je parlais aux adolescents et je leur disais, j'ai hâte que le Seigneur y revienne. Je les voyais pas trop rassurés. Et je leur disais, j'ai hâte pour moi, mais je préfère rester encore. Je préfère qu'ils patientent parce que je sais qu'il y en a qui sont pas prêts. Et c'est vrai, de nous-mêmes, on a hâte de vivre toutes ces choses merveilleuses. On sait qu'un jour, le règne va s'instaurer, la loi divine, la paix, les choses bonnes vont s'instaurer sur la terre. Mais en attendant, il y a des choses qui sont décidées, qui sont injustes. Elles sont injustes. Devons-nous nous liguer, faire un parti politique chrétien, ou devons-nous simplement supplier Dieu de nous aider à tenir dans ce monde perdu ? Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Le meilleur moyen de toucher les autorités, de toucher notre entourage, c'est pas de faire des manifestations, c'est pas de se rebeller, je crois, sans condamner qui que ce soit. Mais je crois que c'est en priant pour les gens et en manifestant l'amour de Dieu, l'amour manifesté lui-même en Jésus-Christ. C'est de cette manière-là. C'est la première chose peut-être que je tirerai, oui, il faut rendre à César ce qui est à César, il faut rendre au monde ce qui est au monde, ne pas y toucher, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. C'est injuste peut-être, mais c'est comme ça. Pour l'instant, moi je ne veux pas, bien sûr je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Mais je n'ai pas besoin de me rebeller, je sais qu'un jour Jésus va instaurer toutes choses. Et par contre, je ne veux pas oublier de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui lui revient. Croyez-vous que c'est Dieu qui vous a donné la vie ? Pensez-vous que c'est Dieu qui a tissé votre corps, votre être dans le ventre de votre maman ? Qui est maman, ici ? Moi je ne suis pas maman, hein. Je lève la main, je ne suis pas maman. Je suis papa. Et je sais, j'ai posé la question à ma femme. Je connaissais la réponse. Je sais qu'elle n'y est pour rien. On sait qu'elles n'y sont pour rien, les mamans. Vous n'y êtes pour rien dans la création, dans la formation du bébé dans le ventre, etc. On n'y est pour rien. C'est Dieu qui a voulu notre vie. Alors, à qui revient notre vie ? Sinon à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, faut pas l'oublier. Notre rôle, ce n'est pas de nous tourner, de nous rebeller vers ce qui est du monde, etc., ou de se rebeller, oui. Il faut par contre passer notre temps à rendre à Dieu ce qui revient à Dieu, c'est-à-dire tout. Tout revient à Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce dont nous jouissions, ne serait-ce que le souffle de vie, ça revient à Dieu. Alors je vais appliquer ma vie à te rendre ça, Seigneur, ne serait-ce qu'en gardant une intimité. La première chose, c'est avoir une intimité avec le Seigneur. Et après, dans l'intimité, il nous dit quoi faire. Il nous conduit même à notre insu. Des fois, on se retrouve dans des circonstances, on sert le Seigneur, on ne sait même pas comment on a fait, d'où c'est sorti, etc. On a rencontré quelqu'un, on a simplement parlé et la personne a été touchée. La visite médicale. Hein, vous savez, la visite pour l'emploi, là. Comment on appelle ça? La visite médicale? La médecine du travail, c'est ça. Vous croyez que ça peut être un moment où on peut parler du Seigneur? Je crois qu'il n'y a pas de moment moins favorable ou plus favorable. Je crois que tout le temps. Et même quand c'est favorable, il dit « parle quand même ». En Timothée. Et j'étais dans cette visite médicale et j'avais la joie. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur, juste avant dans la voiture, j'ai vécu un moment particulier avec lui. J'ai été joyeux, j'avais le sourire. La personne n'a fait que de me demander « mais pourquoi vous riez ?» Je dis parce que je suis heureux, j'ai la paix dans le cœur. « Ah bon ?» Et pourquoi, etc. Et bien parce que je connais celui qui donne la paix. Ah bon, et c'est qui? Et bien c'est le Seigneur Jésus. Ah, moi aussi, je suis catholique. Je dis, moi, je suis plus que catholique. Parce que catholique, c'est universel. Moi aussi, je suis universel. Je dis, moi, j'ai rencontré le Seigneur. Je vis avec lui. Il était avec moi dans la voiture. Il était avec moi, et oui. Et on a parlé, parce qu'il est partout, il est présent. Il y a une joie qui déborde. Et les gens, ils n'ont pas besoin qu'on critique. Ouais, vous avez vu telle loi. Non, ça ne sert à rien. Retenez ce qui est bon. La Bible ne parle même pas de ce qui est mauvais, elle dit juste « retenez ce qui est bon ». Ça, ça m'a surpris aussi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui m'a marqué, c'est que j'ai commencé à imaginer que c'était moi la pièce. Vous voulez un petit moment vous mettre à la place de la pièce? Ça fait bizarre, hein, vous voyez une grosse pièce sur l'estrade. La pièce. Et imaginez-vous que Jésus prenne votre vie, comme ça ils disent « de qui est l'effigie ?» De qui est, allez je le dis comme ça, de qui est la marque qui est sur cette pièce? De qui elle parle? C'est qui la marque? Qui a mis son sceau sur cette pièce? Alors rendrez à celui à qui elle appartient, cette pièce. À qui appartient votre pièce? Quelle est la marque qui est sur votre pièce? C'est ça qui m'a frappé vraiment, ça m'a sauté aux yeux un petit peu comme ça. J'y tiens, c'est intéressant. Dans la Bible, il est parlé que Dieu laisse des marques, laisse des traces. Il est dit aussi que le monde laisse des traces. Dans 1 Timothée chapitre 4, et il me semble verset 2, il est dit que des personnes ont la marque de la flétrissure sur leur vie et dans leur conscience. Des gens ont la marque de la flétrissure du péché. Vous savez que quand on vit dans le péché, on est marqué? Déjà dans notre conscience? Parfois dans notre caractère, dans notre tempérament? Et souvent aussi, ça jaillit dans le corps. Vous avez vu quelqu'un qui est plongé dans l'alcool, prisonnier de l'alcool? Parce que je ne veux pas juger, je veux regarder aussi le côté victime. Quelqu'un qui est prisonnier de l'alcool. Vous avez vu le nez qui commence à se marquer, le corps tout entier. Vous avez vu ceux qui sont prisonniers de la cigarette? Comment le corps est marqué? Les mains deviennent jaunes, les dents deviennent jaunes, l'odeur commence à s'en faire remarquer. On sait quand quelqu'un fume, quand il ne fume pas. Malgré tous les efforts pour masquer, il y a quand même quelque chose. Il y a des maladies qui viennent après, etc. Le péché marque, il y a des choses. Vous savez, c'est quoi la définition du péché? Je l'ai dit tout à l'heure, manquer le but. On n'a pas été créé pour ces choses. On a été créé pour la gloire de Dieu. Cette semaine, je donnais l'image d'un Walkman. Vous savez ce que c'est un Walkman? Vous vous souvenez de cette affaire-là, le Walkman? Cette grosse boîte où on met des grosses cassettes dedans. Aujourd'hui, c'est fini tout ça, hein. On met tout sur l'ordinateur, tout ça, ça prend plus de place. Mais il y avait à l'époque les Walkman et ça fonctionnait à pile. Oui, à pile. À pile. Et il y a le Walkman, il a été créé pour jouer la musique ou faire entendre une prédication, pour faire entendre du son. Imaginez-vous que le Walkman, il ne comprenne pas le but à sa vie et il dit « moi, je vais être indépendant ». Il refuse les piles, il refuse la cassette, il refuse les écouteurs. Il dit « moi, je veux fonctionner par moi-même, je veux être tout seul, moi, je me suffis à moi-même ». Il va passer à côté du but de sa vie. La définition, la première définition du mot péché, c'est manquer le but. Pourquoi a-t-on été créé? Si ce n'est pour la gloire de Dieu. Bien sûr qu'une pièce, elle a une forme, elle est déjà ronde, normalement. Parfois trouée, à une époque, elles ont été trouées. Mais sinon, elle a une forme. La forme qu'on a, notre corps a une certaine forme, notre être a une certaine forme. Et c'est Dieu qui nous a créés. Donc on a une forme qui vient de Dieu déjà. Il y a une marque dans tous les êtres humains, il y a une marque de la création de Dieu. On ne peut pas s'extraire. Qui c'est qui a fait que je suis venu à la vie, que le cœur s'est mis à battre dans le ventre de la maman? C'est pas un médecin, c'est pas la maman, c'est pas le papa, c'est pas le hasard, c'est Dieu. Il y a déjà la marque. Mais dans nos vies, la vie peut faire que le péché marque notre vie et marque une image, des inscriptions, nous rappelle notre péché, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit de mauvais. Il y a comme des choses qui sont là et qui sont indélébiles. C'est marqué comme une pièce qui a été marquée. Peut-être que la vie de quelqu'un cet après-midi est encore marquée par le péché. Quelqu'un peut-être est là et a cette marque. Il vit avec ça, il ne peut pas le cacher. Il essaie de faire un beau sourire, il brille de tout son feu en tant que pièce, mais derrière il y a quand même cette marque qui est là, cette effigie, ce sceau. Le péché a peut-être marqué votre vie. Peut-être c'est pas forcément le péché qui marque le plus une vie maintenant, mais il y a aussi le souci qui marque une vie. Quelqu'un est marqué par le souci de la vie. Il y a comme quelque chose sur la vie qui est là. Le péché, oui, la flétrissure. Bientôt, il nous est dit dans la parole de Dieu qu'un jour, la bête, l'antichrist, celui qui viendra au nom du diable avec toute la puissance de Satan pour séduire les hommes, viendra et demandera ce qui est la marque de la bête sur les hommes. C'est pas moi qui le dis, je comprends pas tout dans tout ça, mais il y aura comme une marque d'apposé. Ceux qui refuseront la marque de cet homme méchant, de ce trompeur, de cet imposteur, ceux qui la refuseront seront tués, seront persécutés. Il y a comme une marque. On ne peut pas rester sans marque. Une pièce ne peut pas rester sans marque. Il y a une marque. Soit elle est de Dieu, soit elle est du monde. On ne peut pas être neutre. C'est comme l'affaire du temple. Dieu compare nos corps à des vases, à des temples. Et dans la Bible, le temple ne reste jamais vide. Vous avez remarqué qu'à un moment, quand le temple est créé, il y a l'inauguration. La présence de Dieu vient dans le temple. C'est Dieu qui est dans le temple. Mais dans ce même temple, des années après, on regarde au travers d'un trou et on voit qu'il y a de la prostitution. On voit qu'il y a toutes sortes de choses mauvaises. Des choses qu'on ne peut pas comprendre. Dans le temple de Dieu, de la prostitution. Dans le temple de Dieu, des idoles. Dans tout ça, il y a des marques comme ça. Il y avait même ce temple. Dans ce temple, il y avait des choses mauvaises. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas honoré le Seigneur et la présence de Dieu était partie. On avait attristé l'Esprit de Dieu. Dieu étant parti, d'autres choses ont pris la place. Et dans nos cœurs, sur nos pièces, sur nos vies, il y a une marque. C'est soit celle de Dieu, soit celle du péché. Nul n'est juste, il n'y a pas un juste, pas même un seul, dira le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul. Personne ne peut dire, moi je suis neutre, je ne sais pas encore, je vais me décider un de ces jours, je ne sais pas. On a tous une certaine marque. Et s'il y a ces marques mauvaises, la marque du péché, il y aura la marque de la bête, il y a aussi les marques que Dieu veut laisser. Vous savez que Dieu laisse des marques dans ce monde. Il est écrit dans la parole de Dieu, j'ai noté plusieurs choses, Dieu a marqué le temps. Savez-vous que Dieu a marqué un temps? Il est écrit en Romains 5, 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Qui reconnaît que ce jour marqué était bon pour lui? Qui dit, moi, oui, je fais partie des impies qui ont bénéficié de la mort de Jésus-Christ? Moi, je lève la main, je me reconnais dans le mot impie. Impie, c'est irreligieux. Quelqu'un qui ne veut pas obéir à Dieu, quelqu'un qui ne se soucie pas de Dieu, qui vit pour lui-même et qui ne veut pas vivre pour Dieu. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il voyait que tous les hommes étaient pareils, a dit, il faut que j'envoie quelqu'un pour sauver le monde. Et Jésus est venu au temps marqué, Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés et mettre une nouvelle marque. Jésus lui-même a été marqué. Il avait une marque sur lui qui était reconnaissable. C'est pour ça que les gens l'ont suivi. Il est dit dans Jean 6, 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui, en parlant de Jésus, que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Jésus a été marqué du sceau de Dieu. Est-ce qu'à un moment, vous vous souvenez dans la Bible, un moment particulier où quelque chose est descendu marquer Jésus, comme un témoignage de Dieu pour dire, lui, il est exceptionnel. Pardon? À son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Une colombe est descendue du ciel. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est descendu sur Jésus comme un sceau qui a marqué Jésus. Et une voix s'est fait entendre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui, la marque. l'approbation, le témoignage que Jésus, c'est la personne qu'il faut chercher, c'est la personne qu'il faut trouver et c'est la personne qu'il faut suivre. Jésus était marqué d'un sceau de Dieu. Les serviteurs dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient au service de Dieu, les sacrificateurs, étaient marqués particulièrement par quoi ? Leur dignité était marquée par quelque chose. Qui le sait ? Allez, je le lis. Exode 28, verset 2. « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Le sacrificateur avait des vêtements particuliers, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Est-ce que vous savez que depuis que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nous aussi des sacrificateurs ? C'est-à-dire des personnes au service de Dieu pour lui offrir un sacrifice de louange, des sacrifices. Nos vies, je l'offre. Dans la part du sacrifice de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, il y a plusieurs parts. Il y a la part pour nos péchés, il y a la part pour Dieu. L'Holocauste, c'est la part de Jésus pour Dieu. Et le sacrificateur avait des vêtements pour marquer cette dignité. Avez-vous reçu la dignité de Jésus ? Avez-vous cette marque, ce sceau différent que celui du monde ou des gens qui ne connaissent pas Jésus ? Avez-vous reçu cette marque ? Vous savez ce que ça représente, les vêtements dans la Bible ? L'image, c'est les œuvres. Les œuvres. Le vêtement de justice, c'est l'œuvre de Jésus. Et puis nous aussi, nous devons nous parer du vêtement. Les œuvres que l'on prépare qui sont préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Toutes les œuvres que nous faisons sont comme un vêtement de quel on se couvre, etc. Et je ne vis plus pour moi-même, je vis pour le Seigneur Jésus. J'ai compris que j'avais été créé pour un but et je suis heureux parce que maintenant je suis rentré dans ce but. Je suis rentré dans ce rôle que j'avais à jouer sur la terre. Les enfants de Dieu, de manière générale, sont marqués, comme Jésus a été marqué, par la même personne, la personne du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 et 22, il est dit « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Amen. Par le Saint-Esprit, Dieu a mis une marque sur nous. On n'appartient pas au monde, on appartient à Dieu. On n'appartient pas au monde, on appartient à son Fils Jésus-Christ qui nous a rachetés par son sang. Et l'Esprit de Dieu est comme des arts qui nous font goûter au ciel déjà sur la terre. Qui croit que c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu de péché, de justice, de jugement et qui l'a aidé à croire au salut en Jésus-Christ ? C'est le Saint-Esprit. Déjà, il y a le Saint-Esprit qui vous a touché. Qui a été rempli et baptisé dans le Saint-Esprit ? Ah, et qui a reçu encore plus d'arts de l'Esprit ? Et qui a envie d'être rempli du Saint-Esprit tous les jours de sa vie ? Ah, ça, c'est encore plus important. D'avoir vécu une expérience il y a tant de temps, c'est bien. Mais de vivre encore le baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est mieux. C'est bien mieux. Et vous vous souvenez de la prédication de M. Bordeneuve il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'on était il y a 2 semaines ? Ça fait trop loin ? C'était la Pentecôte. De quoi est-ce qu'il a parlé ? Du baptême dans le Saint-Esprit. Il a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Et il l'a très très bien expliqué. Et il nous a rappelé que c'était quelque chose d'indispensable, qu'on ne pouvait pas ignorer, on ne pouvait pas passer à côté. Cette semaine, samedi dernier, samedi à la réunion de jeunesse, au rassemblement de jeunesse, le matin, il y a une prédication, rien à voir avec le baptême dans le Saint-Esprit, mais depuis dimanche, depuis quelque temps d'ailleurs, il y a un jeune de notre assemblée qui a vraiment soif, qui avait vraiment soif d'être rempli du Saint-Esprit. Il en avait peur parce qu'il ne savait pas comment ça allait arriver, mais il a fait confiance au Seigneur. Je ne veux pas parler en son nom, il n'est pas là, ce n'est pas ma faute. Simplement, pendant la réunion, il était là, il était touché par le message, qui ne parlait pas forcément du baptême dans le Saint-Esprit, mais il était touché, et pendant l'appel, il ne s'est pas levé, mais sur sa chaise, il était visité par le Seigneur, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Personne n'a rien fait, tout seul, avec le Seigneur. Il a été rempli par les baptisés dans le Saint-Esprit, il s'est mis à parler des nouvelles langues. Quand la soif est dans le cœur, quand on y aspire, pourquoi Dieu le refuserait ? À moins qu'il nous montre quelque chose, et quand c'est réglé, il n'y a pas de problème. Il le refuse à personne, sur toute chair. Et bien sûr, on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, on a confessé qu'il était le Christ, parce que le Saint-Esprit nous a touchés, on a déjà reçu le Saint-Esprit, la vie de Dieu en nous, mais Dieu veut donner plus. On est un vase, on ne peut pas contenir toute la grandeur de Dieu, ça c'est vrai. Mais on est des vases, et il veut qu'au moins notre vase y soit rempli, et qu'il déborde même, qu'il déborde, et qu'il jaillisse sur les autres. Ayons soif Demandons au Seigneur, oui, moi je veux que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu, qu'il ne le crie pas avec une petite voix, mais qu'il puisse l'hurler à mon cœur, dire « Tu es enfant de Dieu », une pleine conviction dans mon cœur. Parce qu'il habite entièrement en moi, il me remplit et il déborde. Quelle joie! Qu'est-ce qu'il faut pour marquer une pièce? Pour marquer le métal? Pour qu'il soit marqué. Si je prends une pièce aujourd'hui, que je frappe de toutes mes forces avec un seau, est-ce que ça va mettre l'image que je veux? Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Pardon? Il n'y a pas de mauvaise réponse ou de réponse stupide, hein? On va faire comme à l'école. Vous pouvez le dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chauffer le métal pour qu'il devienne souple. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui peut chauffer nos cœurs pour que la marque du péché s'efface et qu'il puisse en mettre une nouvelle? Qu'est-ce qui peut chauffer mon cœur si ce n'est l'amour de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si ma vie est comme une pièce, alors il faut que je sois chauffé par l'amour de Dieu. Quand j'entends que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils, vous imaginez que pour vous racheter, pour me racheter, le Seigneur n'a pas dit, allez, combien il vaut 10 euros? Allez, 10 euros. Moi, il aurait dit 10 centimes, même pas. La plus petite monnaie n'aurait pas suffi à être trop petite. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il a payé? Un peu? Ou il a donné ce qu'il avait de plus grand, quoi? De plus précieux pour lui? Son Fils? Son unique? Ça veut dire quoi? Mais qu'à ses yeux, j'ai une grande valeur. Peut-être quelqu'un dit, ça vaut pas ma vie, elle vaut pas la peine. Ma vie, elle vaut rien. Je vois pas pourquoi je vis, je vois pas pourquoi je suis encore sur cette terre. Peut-être qu'une mamie, cet après-midi, ou un papy, dit, tu vois l'âge que j'ai quand même? Qu'est-ce que tu veux que je reste sur la terre? Je ne sers plus à rien. Je suis découragé. Je ne vois pas à quoi je sers. Mais si le Seigneur, il vous a donné la vie, il vous a racheté, c'est que vous avez de la valeur, vous avez encore quelque chose de possible de faire pour lui, vous avez encore une importance sur la terre. Sinon, il ne vous embêterait pas à vous laisser sur la terre. On est bien mieux là-haut. C'est pas vrai? Et moi, j'ai pas. Je vous promets, c'est vrai. J'ai pas besoin de le promettre, que ton oui soit oui. J'ai quoi? J'ai 29, je sais plus. J'ai un certain 28 ou 29 ans, je suis né en 84, ça fait quoi ça? Hein? 28 ans, bientôt 29 ans, en août, hein? Voilà, 28 ans, je sais jamais. 28 ans, j'ai 28 ans, mais je vous assure, oui, c'est moi, je vous assure que franchement, honnêtement, je sais que le meilleur m'attend là-haut. Et bien sûr que, humainement parlant, je serais malheureux de laisser ma femme, mes enfants, etc. Elles auraient de la tristesse. Je fais confiance au Seigneur pour les aider. Je vous fais confiance pour les entourer. Je compte sur les enfants de Dieu pour leur manifester l'amour de Dieu. Mais comprenez, la vie ici-bas, elle est bien moins bien que celle qui nous attend là-haut. Alors le Seigneur, s'il avait plus besoin de nous sur la terre, il nous enverrait là-haut et ça serait bien mieux. Lui, il a un autre regard que notre petit regard humain. Et il voudrait mettre son souffle, il voudrait chauffer. Et s'il a payé de son plus grand prix, ce qu'il avait plus précieux, le sang de son Fils a coulé sur la croix, s'il a payé ça, c'est parce qu'on a une grande valeur à ses yeux. Personne ne peut dire « je ne suis pas important, je ne vaux rien ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sans Dieu, bien sûr qu'on ne peut rien. Mais même sans Dieu, on vaut quelque chose aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Même si quelqu'un ne connaît pas Dieu cet après-midi, il vaut déjà quelque chose à ses yeux. Il vaut déjà quelque chose. Pas en sainteté, mais Dieu a de l'amour pour vous. Et il a payé ce qu'il y avait de plus cher pour nous racheter. Et pour racheter chacun de nous personnellement. Et il voudrait mettre son seau, alors il chauffe le métal, il chauffe nos cœurs. Qu'est-ce qui fait fondre notre cœur? Qu'est-ce qu'ils font? Mesdames, elles vont dire des bouquets de fleurs. Ça fait fondre mon cœur. Qu'est-ce qui fait fondre mon cœur? Est-ce que c'est un beau film d'Hollywood? Une série télé comme La Petite Maison de la Prairie? Vous avez déjà pleuré devant La Petite Maison de la Prairie? Vous avez jamais vu? Ça va, ça c'est correct. Est-ce que c'est l'argent qui fait fondre votre cœur? Ah, quand vous avez l'argent, vous pensez qu'à ça, etc. Est-ce que c'est votre belle voiture? Je dis ça en connaissance de cause, hein. J'ai une belle BMW, rouge nacré or, peinture sur mesure, avec du tuning partout, qui faisait un bruit. Broum, broum. Et quand j'ai remarqué tout l'orgueil que j'avais, quand j'ai eu cette voiture, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et il m'a aidé. Il a mis une mamie sur mon chemin, qui rentrait de boîte de nuit, et qui m'a pris de face, qui a cassé la voiture. Il m'a aidé, le Seigneur. Vous voulez qu'il vous aide? Il m'a gardé, le Seigneur. Moi, il prend soin de moi. Mais quand il y a quelque chose qui est un piège pour nous, et qu'on lui dit « Seigneur, aide-moi », il nous aide. Il ne va pas forcément tout casser, mais il va nous aider. Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est la sexualité qui est la quête de votre cœur? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur à vos yeux? L'amour de l'argent? Les jeux? Est-ce que c'est votre famille, votre épouse, vos enfants qui ont la première place dans votre cœur? Ou est-ce que quand vous regardez à l'amour de Dieu, au courage de Jésus, à la puissance de Jésus, à la dignité de Jésus, s'il y avait quelqu'un de digne qui en jetait, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est bien le Seigneur Jésus. Un regard, et il perçait le cœur de quelqu'un. Il l'ouvrait, et il mettait à nu une personne. Une parole, et il répondait avec sagesse. En même temps, il donne une solution pour sortir la personne. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il donne toujours une piste, parce qu'il aime. Est-ce que c'est notre travail qui prend tout notre cœur? Ou est-ce que c'est vraiment le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est lui? Je voudrais que ce soit le Seigneur Jésus. Et je parle autant aux personnes nouvelles qu'aux personnes qui viennent là depuis longtemps. Le Seigneur Jésus a-t-il toujours autant de place dans notre cœur? Je me mets avec vous. Est-ce que sur ma pièce, il y a une nouvelle idole qui est venue? Que ce soit la télé ou autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu? Est-ce que l'image, l'effigie a changé? Ou est-ce que c'est toujours le Seigneur Jésus qui a la première place? Puisse-t-il être toujours à la première place? L'amour de Dieu nous rend-il toujours malléables, souples à sa voix? Quand on entend de la part de Jésus sur la croix, pardonne-leur, alors qu'ils étaient en train de se moquer de lui, lui cracher au visage, lui mettre une couronne d'épines, le clouer ses mains, et j'en passe. Est-ce que ça touche toujours notre cœur? Est-ce que ça le rend malléable? Ou est-ce qu'on est toujours froid? Vous comprenez ce que je veux dire? Important. Quel instrument Dieu va utiliser pour marquer notre cœur? Je crois que l'instrument par excellence qu'il utilisera d'abord pour changer quelqu'un, c'est la croix. C'est la croix. Non pas la croix l'objet, non pas la croix le bout de bois, il n'y est plus Jésus. Mais l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Pour moi, l'œuvre de la croix, elle commence quand il répond dans le ciel, « Moi, envoie-moi. » Déjà là, il a choisi de mourir pour nous, de se donner en sacrifice. Et elle se termine jamais, puisqu'elle est encore en train de continuer. L'œuvre de la croix, elle continue dans nos cœurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus n'est plus sur la croix, il est sur le trône de grâce, il faut aller à ses pieds, et à ses pieds, c'est pas à la croix. À ses pieds, c'est au trône de grâce, mais je dois réaliser que sur le bois de la croix de Jésus, il s'est donné pour nous, son sang a été versé. Il est vraiment mort, la preuve, on l'a enterré, on l'a mis dans un tombeau 3 jours. Il est rentré dans le tombeau, dans le séjour des morts. Et il est ressuscité, il a triomphé de la mort, il est monté dans le ciel, parce que lui n'avait rien à se reprocher. L'Esprit de Dieu l'a ressuscité, il est rentré dans le ciel, il a présenté son sang, voilà. Parce que ces personnes dans le monde, ils ont de la valeur pour nous. Voilà ce que j'ai fait. Tout est accompli, tout est accompli. Maintenant la balle est dans leur camp. Ils ont la possibilité d'accepter ce cadeau, d'accepter cette vie que je veux leur donner, non pas une vie sur la terre, mais la vie éternelle qui commence sur la terre mais qui continue jusque dans l'éternité et que personne ne peut nous voler si nous on la garde précieusement, cette qualité de vie, cette vie éternelle. La croix est un instrument pour marquer. Dans Jean, chapitre 20, verset 25, il est dit, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et là il parle à Thomas, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. J'ai pris ce texte pour nous montrer que même les marques de l'œuvre de la croix sont encore sur Jésus-Christ. Et Thomas, lui qui était un peu incrédule, faut dire les choses comme elles sont, il a voulu voir pour croire. Et Jésus aurait pu lui faire un reproche et dire, ben tant pis pour lui, je reviendrai que quand il sera absent. Non, à un moment, il a choisi quand même de venir. Pourquoi? Pour nous montrer à nous que même si on n'a qu'un peu de foi, un petit peu de foi, le Seigneur s'approche de nous. Et si notre foi, elle grandit un peu, il s'approche encore plus. Et plus notre foi grandit, plus il est proche de nous, plus il vient, plus il nous touche, plus il nous permet d'avoir de la victoire dans nos vies. Et il lui a permis de voir les marques qui étaient dans ses mains et dans son côté. Mets tes doigts. mets tes doigts. Voilà ce qu'il lui a dit. Jésus a été marqué pour que nous, nous soyons aussi marqués à notre tour. La croix a marqué Jésus. La croix va marquer nos vies. Et tous les jours, comme Paul, j'irai, moi je veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ressuscité, l'oubliez jamais. Mais ce message de la croix, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Une puissance de Dieu, sagesse infinie pour ceux qui croient. Amen. Êtes-vous marqué par la croix? Peut-être quelqu'un est nouveau cet après-midi. Peut-être quelqu'un est tout nouveau et vient pour la première fois. Et ça l'étonne un peu d'entendre parler qu'on ressemble à des pièces. C'est une image. Et j'aimerais dire que tant que tu n'as pas laissé le Seigneur toucher ton cœur est peut-être marqué par du souci, par de la maladie, par des choses comme ça. Ton corps est marqué peut-être par ces choses-là. Ton esprit est brisé. Tu gis sous le poids d'un fardeau. Et le Seigneur voudrait enlever cette marque-là. Il est dit l'effigie et les inscriptions. Peut-être que sur ton cœur, il est inscrit « menteur ». Et on t'a toujours dit « t'es qu'un menteur ». T'es qu'un menteur. Peut-être qu'il écrit « bon à rien ». On t'a toujours dit « t'es un bon à rien ». Peut-être qu'on a dit « mais tu es un traître ». Et c'est resté parce qu'un jour, vous avez fait une erreur. Peut-être qu'il y a une culpabilité, un poids qui est là. Et le Seigneur voudrait mettre une nouvelle marque sur votre cœur. Il voudrait effacer la marque du péché. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé sur le bois de la croix en même temps que Jésus mourait. Parce que Jésus, quand il mourait sur la croix, il n'a pas été fait pécheur, mais il a été fait péché. Et c'est le péché qui a été cloué sur la croix. Et tous ceux qui croient en cette œuvre peuvent avoir leur péché effacé. Effacé de leurs pièces, effacé de leur vie, effacé de leur cœur, effacé de leur conscience. Cette conscience qui est flétrie, abattue, torturée par le péché. Le Seigneur peut la laver, l'effacer, effacer tout ce qu'il y a là et mettre une autre marque, la marque de l'amour de Dieu, la marque de la patience de Dieu, la marque du pardon de Dieu, parce que Jésus a tout payé. Et il est dit que sur nos fronts, un nom glorieux, une marque aussi, nous aurons une marque dans le ciel, on la verra. Déjà aujourd'hui, on a une marque sur nous et dans le ciel, on verra tout ça. Peut-être votre nom vous fait honte parce qu'on vous connaît, votre renommée vous a précédé. Peut-être que les gens vous connaissent d'une certaine manière et vous font beaucoup de reproches, ne vous font plus confiance. Sachez que dans le ciel, le Seigneur donne un nom nouveau, tout nouveau. Et dès aujourd'hui, le Seigneur voudrait mettre un nom nouveau dans votre cœur, le nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un vous dira « oui, mais t'as menti, t'as fait ça ». Et vous direz « oui, je sais, je reconnais. Mais aujourd'hui, je sais aussi que je suis pardonné. Parce que Jésus a effacé cette marque, a fait chauffer mon cœur et a mis un nouveau sceau, a frappé une nouvelle effigie. Et je veux plus que quand les gens me regardent, ils me voient moi, je veux qu'ils voient Jésus-Christ, la marque de Jésus, le caractère de Jésus qui s'est formé en moi, son esprit qui est là et qui grandit en moi. Amen. Est-ce que vous avez soif de cette marque du Seigneur sur vos vies? J'ai soif vraiment que les gens n'arrivent plus à dire Jérémy, il est impatient, Jérémy, il est ceci, il est cela, mais qu'ils puissent dire oh, Jérémy, il a changé. Et il continue à changer. Et il fait des progrès, c'est évident aux yeux de tous. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Que le Seigneur puisse être heureux parce que nous marchons d'une manière digne. Nous laissons cette marque s'imprimer de plus en plus dans notre cœur et dans notre vie. Et si je ne laisse jamais rien d'autre attirer mon cœur, si je garde mon cœur plus que toute autre chose, mon cœur ne sera plus chauffé par autre chose et la marque ne s'enlèvera jamais. Vous comprenez? Et j'aurais beau salir la pièce quelquefois parce que je suis dans des endroits où j'entends des choses qui polluent mon esprit, j'entends des choses qui salissent mon corps, je marche dans un monde et mes pieds sont salis, je sais que j'aurai plus qu'à passer la pièce sous l'eau de la parole. Et puis la pièce sera à nouveau brillante et propre. La marque s'effacera pas, malgré le péché. Et si des fois je tombe moi-même, je me manque, ça n'imprimera pas mon cœur. Parce que de suite je me relèverai, je demanderai pardon au Seigneur. Je réglerai, je confesserai ce que j'ai fait si j'ai besoin de le régler avec quelqu'un. Et je reprendrai la route. Parce que j'ai toujours la foi dans le Seigneur Jésus et dans son œuvre. La croix marque mon cœur. Amen. Mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci. Parce que pour toi, il n'y a pas de trace, de marque trop imprimée pour que tu ne puisses l'effacer. Il n'y a pas de chose trop mauvaise, Seigneur, qui ait trop entaché une vie. Pour que tu ne puisses, Seigneur, venir la couvrir, l'effacer par ton sang et y mettre une nouvelle marque, écrire une nouvelle vie, repartir à zéro avec quelqu'un. Oui, l'effigie, je veux que ce soit la tienne sur ma vie. Les inscriptions, je veux que ce soit les expériences que je fais avec toi. Seigneur, je veux vraiment écrire une nouvelle vie avec toi, Seigneur. Rentrer dans un nouveau départ avec toi, Seigneur. Pour tous ceux qui sont là, qui sont déçus d'eux, qui sont abattus, tu les relèves, tu les restaures, tu les encourages, tu leur accordes de saisir cette parole et de recevoir la foi en toi pour être pardonnés, pour être relevés, restaurés, des personnes nouvelles, pour qu'ils puissent naître de nouveau en choisissant de marcher avec toi et après toi, Seigneur. Merci Jésus d'être notre sauveur. Merci Jésus encore parce que tu es aussi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je veux le confesser, je veux le croire dans mon cœur. Je veux que la croix soit plantée dans mon cœur, toujours m'en souvenir et croire que tu n'es plus sur un bois, mais que l'œuvre de la croix se continue parce que tu continues à en parler à mon cœur. Lorsque je suis dur envers les autres, lorsque je juge les autres, tu me rappelles combien tu m'as aimé, moi qui ne le méritais pas. Tu continues, Seigneur, à travailler nos cœurs et tu nous fais aller de victoire en victoire par la foi. Nous nous souvenons que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il n'y a rien d'autre que de te faire confiance, que de te confier nos vies, donner nos vies tout entières, de reconnaître notre besoin de toi et notre existence pour toi. Il n'y a pas d'autre but à l'existence des hommes, sinon celui de te louer, de t'adorer et de marcher d'une manière digne de ton nom, Seigneur. Oui, s'il y a des récompenses et si nous voulons des récompenses, ce n'est pas pour satisfaire notre propre conscience, mais pour croire que lorsque nous serons au ciel, nous pourrons te rendre toute gloire et tout ce que nous aurons pu voir de nos yeux au travers de notre vie, Seigneur. Nous croyons et nous savons que c'est par toi que nous le faisons et nous pourrons dire oui, Dieu a pu agir au travers de moi, je suis heureux parce que Dieu a vraiment accompli sa parole en moi, juste parce que je l'ai laissé faire, parce que je croyais en lui. Merci Seigneur d'agir dans les cœurs des nouvelles personnes, eux qui sont bloqués, Seigneur, s'il te plaît, agis dans leur cœur et travaille leur cœur, que ton nom soit béni mon Dieu, mon roi, amen.